Bonsoir à tous. Eh bien, bonne année. Et nous sommes évidemment très très heureux de vous revoir tous ici ce soir au Palais de Monaco, que nous remercions encore très chaleureusement de leur hospitalité, de leur générosité avec ou envers notre initiative. Très heureux de vous revoir ici ce soir pour le premier atelier philosophique en 2016 et le quatrième de notre série. Alors, ce n'est pas pour faire un bilan, mais vous l'aurez remarqué, pour ceux qui nous suivent depuis le début, que la question de l'amour ne cesse de se complexifier, de se creuser, de se problématiser, quasiment toute seule, et au fur et à mesure que nous avançons dans notre interrogation. Vous vous en souvenez, nous avons commencé avec la rencontre amoureuse, sur laquelle nous reviendrons inévitablement ce soir. D'ailleurs, nous n'en avons jamais vraiment fini avec la rencontre, l'instant ou le moment de la rencontre, ce qui se fait dans cet événement indescriptible, renversant, bouleversant de la rencontre. Et où dans ce premier atelier, donc, on l'aura compris, la rencontre amoureuse, s'il y en a, ne se réalise en vérité que si elle s'inscrit dans une trame, dans une histoire, dans une trame historique. Et donc, en un certain sens, la rencontre amoureuse, on l'a vu dans ce premier atelier, suppose toujours quelque chose comme une appropriation de son secret, de cet instant indescriptible et incompréhensible. On n'est pas si loin, vous l'aurez remarqué, d'une certaine négation de l'instant exceptionnel de la rencontre, de ce que les amoureux se disent entre eux, de leur rencontre propre, une certaine négation donc du choc inhérent à la rencontre dans sa compréhension et dans sa mise en contexte historique. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions à poser ici sur cette histoire de la rencontre, sur le lien entre rencontre et histoire, car en vérité, rien n'est moins sûr et assuré que ce lien où l'instant de la rencontre se transforme en une histoire. Mais nous sommes ensuite passés dans notre second atelier à l'énorme question du désir, de la passion et de la jalousie. Nous avons appris, entre tant de choses, qu'autant la jalousie peut être une passion dite négative, elle ne pouvait entièrement être dissociée de l'amour. Et qu'en tout cas, la jalousie entraînait aussi le désir, tout comme elle suscitait la passion, alors même qu'elle peut tout autant les détruire. Et ensuite, toujours en complexifiant la question de l'amour, nous avons appris dans notre dernier atelier, en décembre, « Aimer, mentir, trahir », que le mensonge et la trahison habite et hante perpétuellement et incessamment la relation amoureuse, le rapport entre amoureux. Nous voyons donc en quoi l'amour est toujours habité par ce qui se présente souvent comme ce qui peut le détruire et le miner. En somme, nous commençons à voir qu'en amour, rien n'est transparent et que tout est profondément happé, non pas par de l'irrationnel, mais par de la logique, du sans logique. Ou alors que si logique à l'amour il y a, eh bien, elle n'est aucunement, à moins de réduire l'amour lui-même, pensable dans l'horizon de la logique raisonnée, transparente et lucide. En effet, la trahison signe-t-elle la fin de l'amour? Ou engage-t-elle l'amour de plus belle? Est-on fidèle uniquement par amour ou bien infidèle par désamour? Ou encore, peut-on être infidèle par amour? Ou fidèle par désamour? Vous voyez, les tournants, les renversements, les bouleversements habitent cette question et on ne s'étonne désormais plus de constater en quoi parler de l'amour, c'est se précipiter dans un tourbillon de contradictions et d'apories. À moins de se tourner peut-être vers une certaine sociologie, nous le verrons peut-être ce soir avec M. Faro, où l'amour se voit configuré et contextualisé dans des normes et des lois sociétales et où nos actions et nos comportements sont peut-être en amour, répétable selon les différents milieux sociétaux, classes et structures.
Ce soir, pour une fois, nous avons invité des non-philosophes, d'autres voix que strictement philosophiques, bien que, Anne, vous êtes aussi philosophe, mais qui ont néanmoins toujours interpellé, sollicité, commandé la philosophie, celle de la psychanalyse et de la sociologie. Et ce, pour aborder un grand thème, une complexification de plus dans notre interrogation sur l'amour. Nous parlerons ce soir des apories inhérentes au cœur même de toute relation amoureuse, de tout vécu entre le moi aimant et l'autre aimé. C'est la difficile, compliquée question entre amour de soi et amour de l'autre. Ouvrons ici avec une citation de Jacques Derrida, tirée de ce très grand livre écrit depuis les infinies apories inhérentes à l'amour, ce grand livre composé de cartes postales envoyées d'un amoureux à son aimé. Derrida écrit dans une des cartes postales « Et quand je t'appelle mon amour, est-ce toi que j'appelle ou c'est mon amour que j'appelle ? Toi, mon amour, est-ce toi que je nomme ainsi, à toi que je m'adresse ? Je ne sais pas si la question est bien formée, elle me fait peur. Toi seulement, mon amour, toi seulement, tu l'auras su. » Je ferme la citation. Lorsqu'on appelle l'autre mon amour, est-ce ce soi-même que l'on appelle ou bien est-ce l'autre en tant qu'autre, l'autre pour ce qu'il est, dans son secret et son altérité, qui est appelé ? Voilà la question. La question, qu'aime-t-on en l'autre ? Est-ce l'autre ou est-ce ce reflet de moi-même en l'autre ? Rappelons-nous ici l'histoire de Narcisse qui meurt de trop se regarder, de trop se voir et se vouloir soi-même, de trop vouloir s'épouser soi-même à soi-même, d'avoir oublié l'autre donc dans la relation d'amour. Ce que cette histoire nous recommande, c'est donc que ces épousailles de soi-même avec soi-même mènent à la mort de soi-même, à la mort du soi-même. D'oublier l'autre dans l'amour en restant soi-même avec soi-même, pour ainsi dire, c'est peut-être mourir de trop s'aimer soi-même. Et en même temps, aimer l'autre en tant qu'autre, eh bien, on peut aussi en mourir. Mourir de trop l'aimer, de trop s'effacer soi-même pour l'autre en s'abandonnant entièrement à l'autre, en sacrifiant sans soi-même pour l'autre, en s'adonnant sans retour à l'autre, sans échange, sans réciprocité avec l'autre. Alors, qui des deux aime ? Est-ce celui qui ne voit pas l'autre en se voyant que lui-même ou est-ce celui qui ne voit que l'autre ? Mais ajoutant aussitôt que dans la réciprocité, comme si réciprocité il pouvait y avoir en amour, nous ne pouvons pas être si sûrs qu'il y a encore de l'amour. S'aimer également, s'aimer là où le soi et l'autre s'équivalent, est-ce encore de l'amour ? L'amour n'est-il pas toujours asymétrique ? Nous donnerons tout de suite la parole à nos invités de ce soir, pour aborder cette énorme question. Nous allons commencer avec Anne Dufour-Montel, que je présente rapidement d'abord. Anne Dufour-Montel est donc psychanalyste et philosophe et auteure d'une très importante bibliographie à la fois en philosophie et en psychanalyse. Je mentionne ici que quelques titres. Défense du secret, très récemment, 2015, et de l'hospitalité, écrit avec Jacques Derrida en 1997. Anne Dufour-Montel nous présentera son exposé intitulé « La rencontre amoureuse, deux points, ce qui fait événement ». Merci.
Bonsoir, merci de cette belle invitation. J'espère que on fera un voyage amoureux ensemble. Alors, je me demandais d'abord qui est Narcisse, puisqu'il s'agit de l'amour narcissique, de l'amour de l'autre. Et est-ce que l'amour fait événement ? Est-ce qu'on peut en revenir ? Et comment en revient-on ? Et je voulais faire une sorte de face-à-face entre deux personnes qui tombent dans un trou. L'un est son propre reflet et l'autre est un arbre. C'est Narcisse et Alice. Et vous verrez qu'ils ont des points communs assez troublants. Je commencerai aussi par cette sous l'égide de Lacan qui dit que le désir, c'est toujours le désir de l'autre et qu'on est toujours trois. Alors, qui est Narcisse ? Narcisse est celui qui tombe amoureux, comme vous le savez, de sa propre image, jusqu'à s'y noyer, avec la nymphe Écho qui observe. Donc d'emblée, s'ouvre là un triangle. Narcisse, on l'oublie parfois, est tout sauf uni. Il y a de l'étonnement chez Narcisse. C'est un mythe beaucoup plus ambigu qu'il n'en a l'air. On n'est pas dans le solipsisme, ni la clôture, ni l'amour de soi comme soi. Il s'agit d'aimer l'autre narcissiquement, c'est lui demander d'être un pur reflet, de faire écho à nos failles, à nos différences. Or, cette dualité, cette ouverture, elle commence dès le début de la vie. Je crois qu'on ne dira jamais assez le scandale, l'étonnement radical qu'est le début de cette vie qui fait que nous venons d'un autre, d'une autre. Le sujet ne préexiste pas à lui-même, le sujet vient à lui-même. La fusion dont il naît est d'abord, il est porté par une mère, il est donc ses entrailles, son imaginaire, sa langue viennent d'une autre. Donc l'altérité est première. On vient de l'altérité. Je le martèle un peu parce que c'est un scandale dont la pensée a du mal à s'emparer. Puisqu'on pense le jeu est une illusion de la grammaire, disait Nietzsche, on pense la permanence de nous-mêmes, du jeu, comme si elle allait de soi, sans voir que nous naissons à nous-mêmes. Nous naissons à nous-mêmes très progressivement et nous mourrons a priori seul. Donc dans ce cheminement, il y a deux altérités. Il y a cette altérité première dont on vient et qui fait monde, parce que la mère dont je parle au début, elle est le monde. Elle n'est même pas encore différenciée comme mère, puisqu'elle n'est pas différente de nous, celle d'avant la naissance, je parle. Et puis il y a l'altérité seconde qui est rencontrée à travers le langage, à partir de quelques semaines de l'après-naissance. Et il y a entre ces deux altérités ce qu'on appelle un sujet qui vient à partir de cette effraction, d'un étonnement très radical qui est lié de l'autre, l'autre second. Et je crois que dans l'événement amoureux, alors c'est difficile parce que dans la langue anglaise il y a une distinction entre le happening, ce qui arrive sur le champ, et l'event, qui est un événement pris dans sa temporalité close, ce qui a lieu ou ce qui a eu lieu. Donc je vais plutôt parler du happening, c'est-à-dire ce qui arrive. La rencontre est quelque chose qui arrive comme un accident, une déchirure temporelle qui ne nous permet pas de revenir à soi comme avant. Il y a naissance, en quelque sorte, d'un autre là. Les deux événements qui président à la vie humaine, que j'évoquais tout à l'heure et qui sont d'une certaine manière impensés, sont la naissance et la mort. Puisque de la naissance, aucune conscience ne nous reste, sauf l'éveil même de la pensée, mais hors mémoire, d'une certaine manière. Et de la mort, si nous pouvons être lucides jusque-là, c'est l'instant où se résout en nous l'événement, il nous échappe, il a lieu et nous ne sommes plus. Un événement ne se réduit de ce fait ni à un accident, si dramatique soit-il, ni à un effet de réalité. Il suppose une permanence du sujet, nous, mais paradoxalement, lui-même ne change pas. L'autre, dans l'amour, nous le rencontrons comme autre, alors qu'en réalité, ce que nous apporte la psychanalyse nous dit qu'en quelque sorte, cet autre que nous croyons découvrir pour la première fois et d'une certaine manière qui nous révèle à nous-mêmes, il y a en tout cas un sentiment de révélation dans l'amour et de première fois, est toujours en quelque sorte un fantôme. Pour coin fantôme, parce qu'il vient réveiller, révéler notre passé, et un passé qui ne passe pas. C'est-à-dire, pour Freud, une des assertions les plus importantes de Freud, je trouve, c'est pour l'inconscient, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que tous les événements de votre passé, et notamment traumatiques, sont en temps réel en vous constamment. Or, les premiers moments de la vie, les premiers attachements forment une sorte d'alphabet, de grammaire, de ce qui fera la vie de nos liens, de la manière dont nous allons nous attacher. Cette grammaire, elle est impensée par nous. Elle nous anime à notre insu. Cette grammaire forme la trame des événements premiers de notre vie et va se dupliquer quasiment à l'infini dans les événements de notre vie, mais notamment dans l'amour, puisque l'amour va essayer de retrouver les conditions premières de l'attachement, de nos premiers attachements. Pourquoi ? Ce que la supposition qu'a fait Freud, vous connaissez, que la libido est gouvernée par une économie qui est l'économie du principe de plaisir. Il a fait l'hypothèse qu'il y avait ce qu'on appelle une pulsion de mort, c'est-à-dire un principe qui essayait de revenir dans l'individu à une sorte de stabilité. La libido nous fait déborder de nous-mêmes constamment vers l'objet d'amour. Elle nous met en proie à la vie pulsionnelle qui attaque en quelque sorte notre économie, notre stabilité pour trouver satisfaction dans l'autre. Et cette économie pulsionnelle peut nous mener en quelque sorte jusqu'à notre propre destruction. Il faut de la répétition, c'est-à-dire que les conditions de l'attachement cherchent constamment à répéter ces premières grammaires, ce premier alphabet de l'amour et de la manière dont l'attachement est venu nous dire notre rapport au réel et notre rapport à l'autre. Lacan nous dit dans un des séminaires « Dis-moi qui je suis et je t'aimerai ». Il pense le narcissisme, c'est-à-dire la question que l'on pose à l'autre comme fantôme, c'est-à-dire comme résurgence de cet alphabet premier qui nous a constitué, pas seulement la mère mais aussi, et le père, mais aussi les premiers émois, le premier rapport au réel, va sans cesse nous convoquer. Nous sommes des maisons hantées. Et c'est comme si, se surimposant à la rencontre, nous ne faisions que poser à l'autre la même question. Et quelle que soit la différence de nos moments de vie, de nos moments d'attachement, de nos passions, nous répétions sans cesse, nous réitérions sans cesse la même question. Une question dont, paradoxalement, nous ne voulons pas avoir la réponse. Parce que cette réponse ferait cesser le mouvement de cette question. Et le mouvement de cette question, que l'on peut appeler notre désir, étant ce qui nous tient en vie et que nous méconnaissons. Il s'agit, au strict sens du mot ravissement, d'un ravissement, c'est-à-dire d'un ravir à soi-même. Nous sommes ravis à nous-mêmes dans la rencontre par cet autre qu'en même temps, d'une certaine manière, nous nions dans son altérité, puisque fantomatiquement, il est là pour nous rappeler, pour nous convoquer à notre passé. Et je dirais que la névrose a horreur de l'inédit. La névrose est ce qui nous fait sans cesse revenir au même. Et peut-être que dans ce chemin de, de notre vie, qui est une des questions que pose peut-être que le plus radicalement la philosophie à la psychanalyse, serait précisément de pouvoir supporter et soutenir l'inédit ou l'inespéré dans cette vie. Alors, je voulais revenir, avant de vous parler d'Alice, à ce qui fait, pour moi, le propre de... En quoi l'amour peut échapper, j'allais dire, à la fatalité du narcissisme, si l'on entend Narcisse comme le double fantomatique, non pas de nous-mêmes, mais de tout ce qui a imprimé notre histoire. Je parlerai d'un très bref cas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement des visages de notre être, de nos premiers rattachements qu'on cherche dans l'autre, ce reflet-là, cette question du « est-ce que tu m'aimes ?» qui est sans cesse réitérée à partir de notre passé, mais qui est aussi, qui vient des générations antérieures, ça nous entraînerait trop loin, mais qui est une sorte de sidération venue du passé. Donc il ne suffit pas que Narcisse s'adresse à son reflet, soit fasciné par son reflet, mais au fond, dans chaque autre rencontré, il y a le fantôme des expériences de nos attachements premiers qui se sont déposés en nous, mais aussi de ce qui a constitué les histoires dont on vient sur 3 ou 4 générations et qui s'adressent à nous secrètement sans que là non plus nous en ayons conscience, autrement que par des rêves, par des mots d'esprit, parfois par ce que nous réalisons dans la vie et qui nous informe presque en avance de nous-mêmes sur cette maison hantée que nous sommes. Alors donc, je voulais rappeler que le mot désir, puisque dans ce couplage entre l'amour et le désir, il y a une question qui est sans cesse relancée, qui est celui de la sidération. Car enfin, quand Narcisse se penche sur son reflet, on peut dire qu'il est sidéré. Il est happé par ce reflet au point de vouloir le rejoindre et de s'y noyer, c'est-à-dire qu'il est stricto sensu sidéré. Alors, le mot désir vient de cette racine siderius, puisqu'il vient du latin desiderare, ce que l'italien a gardé, qui est lui-même formé à partir de sidius, l'étoile. Sidius désigne l'astre. Et au sens littéral, desiderare signifie donc cesser de contempler l'étoile. Il est étrange, je le souligne là une minute, que ce mot désir, qui a pris une telle amplitude d'ailleurs depuis le XIVe siècle quand il apparaît, est né de cet étrange événement. C'est-à-dire, c'est un mot qui ne vient pas du charnel, de la chair, il vient de l'étoile, du céleste. Et il désigne ce qui se défixe de l'étoile, hein, ce qui se détache de l'étoile, donc ce qui nous décidère. Le paradoxe, c'est que ce mouvement du désir, en fait, vient nous faire quitter la place de l'idéal, c'est-à-dire ce qui nous fixerait à l'idéal. Or, Narcisse est une figure de l'idéalisation, hein. Une figure qui peut être négative ou qui peut être positive, mais qui nous enferme dans une répétition sans écho. Alors, avant de poursuivre sur Alice, je voulais brièvement vous présenter un cas. Partager avec vous une histoire plutôt. Je voudrais que vous me débarrassiez de l'amour. Un jour, une jeune femme est venue me voir et d'une voix très calme, elle a prononcé cette phrase : « Je voudrais que vous me débarrassiez de l'amour. » Je me souviens lui avoir dit que j'en étais bien incapable. mais elle ne m'a pas cru et elle est revenue. Ensuite, j'ai pensé, elle me parle comme si j'étais un tueur à gages. Elle voulait me passer un contrat. Débarrassez-moi de cette chose, l'amour, et je vous payerai pour ça. Ensuite, on n'en parlera plus. Être débarrassée de l'amour et en même temps, ne vivre que pour ça. J'aurais seulement pu lui dire, l'amour est une chose dont on ne se débarrasse jamais. Nous venons de là, du lien. Nous naissons encordés comme des alpinistes, attachés à un ventre, une âme, des tripes, une voix. Nous venons du deux. Et pour naître, il a fallu passer par un arrachement dont nous n'avons pas même idée. Si c'est de cet amour-là dont cette femme parlait, il n'y a rien à faire. Il est dans le moindre de nos gestes, il nous préexiste, et sans le secours d'aucun dieu, il s'est déposé en nous comme la marque du premier lien. Quand cette femme est revenue, elle m'a dit qu'elle avait aimé un homme et qu'elle avait voulu mourir quand il l'avait quittée. Ça arrive en principe, et puis ça passe, mais pas pour elle. C'était il y a 30 ans et ça ne passait pas. Une des définitions que donne Winnicott du traumatisme, c'est ce passé qui ne passe pas, qui ne cesse pas de ne pas passer. Elle avait construit sa vie pour que jamais cette douleur ne puisse revenir, or elle n'était depuis qu'une maison hantée. À chaque craquement réapparaissait le fantôme. Toute sa vie était gelée autour de cette attente catastrophique. Elle tournait en orbite autour de cet amour perdu sans pouvoir s'en écarter. Ainsi commence la mélancolie, au sens psychanalytique, avec la fixation à un objet toujours déjà perdu, qu'on ne peut oublier, qu'on refuse d'oublier. Dans Bélier, Derrida décrit le mélancolique comme le soldat qui refuse de se plier à la loi commune de l'oubli. Pour lui, ça ne passera pas. Quelle loyauté secrète entretenait cette femme avec tant d'obstination ? Dans l'histoire de sa famille, il n'était question que d'attente. Pendant la guerre de 14, son arrière-grand-mère avait attendu son fils unique parti sur le front russe à 17 ans. Elle avait été emportée par la maladie quelques jours avant son retour, alors qu'il avait traversé la guerre indemne. Ce fils survivant, le grand-père donc de ma patiente, eut lui-même un fils unique avec une jeune femme russe. Mais elle choisit de revenir dans son pays peu après l'accouchement, abandonnant ses enfants à son mari. Ma patiente venait d'une lignée d'abandon et d'attente. Elle attendait, sans le savoir, que le destin s'inverse, qu'il vienne réparer les traumas de la grande histoire. Pourquoi est-on fixé sur des répétitions mortifères ? Pourquoi l'amour qui se donne pour l'événement le plus nouveau, le plus inespéré, est-il pris si souvent dans les mêmes boucles du destin de génération en génération ? Un jour, en consultant le livret familial, cette femme apprit que son père avait un jumeau décédé à la naissance, appelé Serge, du même prénom que l'homme qu'elle avait tant aimé. Elle comprit que dans sa propre histoire à elle, elle les incluait tous. L'arrière-grand-mère russe qui avait attendu son fils toute la guerre, le grand-père dont la femme russe avait disparu trop vite, le frère disparu du père dont son amoureux à elle portait le même prénom. Elle était cette femme qui serait là jusqu'au dernier jour à attendre et à racheter toutes les attentes. Puisque tout ce qu'on aime disparaisse. Ce qui se répète dans l'amour, ce sont les conditions de son apparition. Ceux qui surgissent en arrière des visages aimés, superposant leur corps sépulcral à celui encore vivant des vivants. Et nous répétons pour faire revenir et légitimer un passé sur lequel on n'a aucune prise. Et ainsi faisant, on fait revenir les fantômes. Ainsi, le futur nous parlerait en secret d'émergence venue du passé, de répétition, de réactivation des morts, de ce que Walter Benjamin appelle l'anachronisme. Donc l'amour n'est pas seulement une histoire sidérale et nouvelle, elle est aussi une histoire de fantômes. Or les fantômes, ils ne font que revenir. Mais, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes. Non, 6 minutes. Alors, je voulais quand même parler d'Alice. Parce que je trouve qu'Alice, elle répond à Narcisse. Que va découvrir Alice de l'autre côté du miroir ? Elle traverse. Alice, elle traverse. Elle traverse parce qu'elle change de dimension. Le rêve d'Alice couvre une vérité sous haute tension. On remarque qu'en fait, souvent, les écrivains dissimulent la vérité sous des dispositifs. Tristan et Iseut, c'est un filtre. Alice, c'est un rêve. Sans doute que la vérité ne peut pas être divulguée directement. Donc, en arrivant sous le nez d'Alice, qui est notre nom commun d'enfant, je crois, il y a un lapin blanc qui va l'arracher à sa lecture, à sa poupée, à son enfance. Un lapin furtif. Et en le suivant, c'est-à-dire en suivant son désir, Alice changera de dimension. Elle prendra un risque fou. Elle fera l'expérience d'une folle journée à travers le temps et l'espace, l'amitié, les émotions, les sentences de mort absurdes, des répétitions ironiques. Ils la feront devenir géante, puis minuscule, tenir tête à une reine de cœur et rencontrer des gens fous qui se trouvent parfaitement normaux. La vie, quoi. Pour Alice, tomber hors de l'enfance et s'éveiller dans une contrée étrange où toutes les règles semblent absurdes, comme dans l'épreuve d'un koan zen. Peut-être est-ce ce à quoi il faut consentir pour retrouver le désir et pour rencontrer, de l'autre côté du jardin, l'autre. Qu'est-ce qui éveille Alice à une autre réalité et lui fait traverser les miroirs en tombant dans un arbre ? Trop petite ou trop grande, elle devra franchir constamment des passages. Manger un biscuit, trouver une clé perdue, deviner ce qui se dissimule derrière le sourire du chat. Là, même l'identité vacille. Dans l'événement de l'amour, il y a un choc et une révélation sur l'identité. Il faut traverser la faille. Je cite. La chenille et Alice se regardèrent un moment en silence. Finalement, la chenille retira son narguilé de sa bouche, puis s'adressant à elle d'une voix languissante et endormie. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-elle. Ce n'était pas un début de conversation très engageant. Alice répondit d'un ton timide. « Je ne sais pas très bien, madame, du moins pour l'instant. Je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je crois qu'on a dû me changer plusieurs fois depuis ce moment-là. « Que veux-tu dire par là ?» demanda la chenille d'un ton sévère. « Explique-toi. »« Je crains de ne pas pouvoir m'expliquer, madame, parce que je ne suis pas moi, voyez-vous. » « Non, je ne vois pas, dit la chenille. J'ai bien peur de ne pas pouvoir m'exprimer plus clairement, reprit Alice avec beaucoup de politesse, car tout d'abord, je ne me comprends pas moi-même ce qui m'arrive, et de plus, cela vous brouille les idées de changer si souvent de taille dans la même journée. « Allons donc, s'exclama la chenille. Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu jusqu'à présent, continua Alice, mais quand vous serez obligé de vous transformer en chrysalide, cela vous arrivera un de ces jours, vous savez, puis en papillon, je suppose que cela vous paraîtra un peu bizarre, ne croyez-vous pas ? Pas le moindre du monde, répondit la chenille. Eh bien, il est possible que cela ne nous fasse pas cet effet-là, dit Alice, mais tout ce que je sais, c'est que cela me paraîtrait extrêmement bizarre à moi. À toi, fit la chenille d'un ton de mépris. Mais qui es-tu, toi ? Ce qui les ramenait au début de leur conversation. Eh bien, peut-être que la rencontre amoureuse et l'événement, c'est précisément ne pas être ramené au début de la conversation et entendre que dans ce processus qui fait de nous tous des chrysalides, il y a un devenir qui est aussi un secret et qui fait effraction. Merci.
Merci beaucoup, Anne Dufour-Montel, pour ce très très bel exposé. On va réserver les questions. Puis on va passer la parole à Patrick Farreau. On va réserver les questions pour le moment après la conférence de Patrick Farreau. Patrick Farreau est sociologue. Il est directeur de recherche au CNRS et membre du Centre de recherche Sens, Éthique et Société. Il a écrit énormément d'ouvrages. Je ne citerai que quelques-uns ici. Le sens de la justice, essai de sémantique sociologique au PUF en 2001 et tout récemment en 2015, la dépendance amoureuse, attachement, passion, addiction. Patrick Farreau.
Merci. En fait, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité, ce qui m'honore beaucoup. Puis je voudrais aussi dire juste un mot sur le début de cette séance où on a eu, comment dire, une occurrence de la beauté pure, ce à quoi les gens qui, comme moi, fond dans, disons, le discours savant, entre guillemets, n'accède jamais. Voilà, donc c'est le regret que nous avons dans ce genre de métier. Et donc je vais parler de l'internarcissisme amoureux, ce qui signifie en fait que j'ai l'intention de présenter quelques réflexions, non pas sur le narcissisme du sujet amoureux, mais plutôt sur son rapport au narcissisme d'autrui dans une relation amoureuse. Donc ces réflexions sur ce qu'on pourrait appeler donc l'internarcissisme amoureux s'inscrivent dans une série de recherches de sociologie morale sur les dépendances motivées, menées d'abord à propos des drogues, puis élargies à d'autres dépendances de la vie quotidienne, telles que les achats, la sexualité et plus récemment la dépendance amoureuse. Alors par rapport au thème de cette conférence, on peut dire que la dépendance, et en particulier la dépendance amoureuse, est un défi pour le narcissisme, puisqu'elle met en concurrence l'amour de soi avec l'amour ou le besoin de l'objet dont on dépend. Alors, ce que j'appelle une dépendance motivée, qu'il ne faut pas confondre avec une dépendance imposée par la pauvreté, l'oppression, la maladie, la vieillesse, c'est un désir récurrent de plaisir et de bonheur qui nous pousse et nous ramène en permanence vers un certain objet. Dans la perspective où je me place, ce genre de dépendance est lié originairement à une recherche d'intensité et de récompense inhérente à la condition humaine et à la neurophysiologie de notre cerveau. Je vais revenir sur ce point ensuite, mais pour l'instant, je veux seulement souligner que les dépendances motivées sont d'abord une promesse de bonheur et une source de belle vie, bien qu'elles puissent aussi devenir des pathologies sous la forme notamment d'addiction à des substances, des pratiques, des relations, voire des religions, lorsqu'il y a divergence entre la force du désir et la capacité de l'objet à le satisfaire. Mais si le désir est fort et que cette divergence n'a pas lieu, la dépendance est une source de belle vie et non pas de désespoir et de malheur. Et c'est le cas tout particulièrement des dépendances amoureuses qui imposent habituellement certaines limites au narcissisme, liées précisément au narcissisme d'autrui, mais qui peuvent aussi être très heureuses, comme le fut par exemple celle de Philémon et Baucis, ce couple qui, dans la mythologie grecque rapportée par Ovide, ne demandait au dieu qu'une seule grâce, celle de n'être séparé ni dans la vie, ni dans la mort, et qui fut finalement exaucé grâce à générosité envers des voyageurs qui étaient en fait des dieux déguisés, comme le sont peut-être aussi les migrants du monde contemporain. Quant à la sociologie morale, telle que je l'entends, ce n'est ni une sociologie au sens habituel, ni une philosophie directe ou de première ligne, mais plutôt une ethnophilosophie, c'est-à-dire une philosophie qui accompagne les réflexions des gens ordinaires, ou alors celle des savants, des écrivains, des cinéastes, sur des sujets moralement sensibles. Le but de la démarche est d'extraire et d'exprimer la philosophie pratique des sujets sociaux dans leur vision courante du bien, du mal et des libertés des autres et de soi-même pour essayer d'en tirer des conclusions philosophiques un peu plus larges. Donc dans ce qui suit, je vais d'abord faire quelques commentaires critiques, non pas sur le narcissisme, mais plutôt sur le solipsisme amoureux, c'est-à-dire un rapport amoureux sans reconnaissance de l'altérité. Ensuite, j'expliciterai cette critique en montrant le rôle crucial du rapport au désir et au narcissisme d'autrui dans l'attachement amoureux. Et enfin, je présenterai quelques éléments d'éthique de l'intime qui se dégagent des formes contemporaines de l'attachement ou du non-attachement amoureux dans ce qu'on peut appeler la nouvelle carte de tendre. Et je tirerai quelques brèves conclusions plus directes sur la philosophie de l'amour. Donc, mon premier point, c'est narcissisme ou internarcissisme. Et j'ai été un peu surpris par certaines questions du texte de présentation de cette rencontre, que je cite. « Est-ce toi que j'aime ou aimais-je moi en toi? N'aime-t-on en l'autre que le reflet de soi-même? Peut-on jamais aimer l'autre en tant qu'autre ?» Cette vision, qu'on pourrait dire solipsiste, plus encore que narcissique de l'amour de l'autre, est probablement assez répandue chez certains psychologues, mais elle se heurte à des objections factuelles majeures qui viennent aussi bien de la psychologie expérimentale que de la littérature sur la passion amoureuse, qui souligne de façon écrasante l'importance de l'altérité dans l'attachement amoureux. D'un point de vue strictement naturaliste, l'objection la plus immédiate est que si la sexualité a été élue par l'évolution naturelle comme moyen prioritaire de reproduction, c'est précisément parce qu'elle permet à chaque génération de brasser et de différencier les patrimoines génétiques, ce qui est la meilleure façon de protéger les organismes contre les environnements toxiques. Ce principe de différenciation est si puissant qu'il s'applique même aux organismes hermaphrodites, comme les escargots, qui ne se reproduisent pas avec eux-mêmes, mais avec d'autres escargots. L'intérêt de la reproduction sexuée est en effet de permettre à un individu de s'unir non pas à son double, mais à un être aussi différent de lui que possible sur un plan biologique. Car si un individu s'unit à son double, il risque de ne pas avoir de descendance, ce qui en soi n'est pas du tout un problème, surtout dans le contexte contemporain de séparation entre l'union sexuelle et la reproduction. Mais du point de vue de la généalogie naturelle du sentiment amoureux, c'est-à-dire des conditions ancestrales qui ont rendu les humains capables de tomber amoureux, on doit bien supposer que les formes d'amour érotique qui sont parvenues jusqu'à nous sont par définition celles qui ont eu une descendance et qui impliquaient donc un goût pour l'altérité. Alors c'est une analyse qui est confirmée par de nombreuses expériences de psychologie, en particulier celle d'un biologiste suisse, qu'on cite souvent, sur des sujets à qui on faisait sentir des t-shirts portés par des personnes de l'autre sexe et qui manifestaient une préférence pour les t-shirts portés par des personnes dont l'histocompatibilité, c'est-à-dire la compatibilité des systèmes immunitaires, était la plus faible. Autrement dit, il existerait une disposition naturelle à renforcer les défenses immunitaires d'éventuels descendants par l'association des contraires. On sait du reste, par d'autres expériences, là encore sur des t-shirts odorants, que chaque individu possède une odeur tout à fait singulière, liée à des substances volatiles présentes dans la sueur des aisselles qu'on est capable aujourd'hui d'identifier précisément. Et comme les signaux olfactifs sont un élément déterminant de l'attraction amoureuse chez les animaux comme chez les humains, on peut en déduire que l'être que l'on aime n'a jamais la même odeur que soi-même. Sur le plan de l'odeur au moins, ce n'est pas un double. La tendance à tomber amoureux, et comme je suppose que vous le savez vous-même, présente à des degrés divers suivant les individus, et elle se manifeste en fonction des hasards, de la rencontre, des disponibilités de chacun, etc. Mais elle est toujours associée à une chimie morale qui mélange la reconnaissance des styles culturels, des avenirs possibles, des imaginaires partagés, avec la perception des formes, des odeurs, des émanations corporelles. Cette chimie amoureuse repose en fait sur la libération et la perception réciproque d'une série de substances, comme par exemple la dopamine pour l'attente du plaisir, la testostérone pour le désir sexuel, la lulibérine pour l'acte sexuel, les opioïdes pour le sentiment de bien-être, l'ocytocine pour le sentiment d'attachement. La perception positive, réciproque de ces émanations corporelles détermine l'absence de dégoût, qui est un critère décisif de l'attachement amoureux. Et elle peut aussi, quand tout se passe bien, faire de la relation amoureuse une fête quotidienne, se construisant dans la régularité des plaisirs et des émotions positives de la vie domestique. Bon, je sais que la plupart des philosophes, et même les sociologues, n'aiment pas du tout les explications éthologiques et évolutionnistes. Mais je donne dans mon livre beaucoup d'exemples cinématographiques et littéraires qui vont exactement dans le même sens, en particulier sur les odeurs et le chimisme spécifique de chaque relation amoureuse. C'est du reste Proust lui-même qui parle de chimisme à propos de l'amour de Swann pour Odette de Crécy, lorsqu'il remarque que sa maladie, comme disent les médecins, n'était plus opérable. Quant à la relation de Marcel et d'Albertine, elle met en présence deux personnes chimiquement très différentes, dont l'une procure néanmoins à l'autre un bonheur domestique si intense qu'il préfère toujours rentrer chez lui plutôt que sortir lorsqu'il sait qu'il retrouvera Albertine qu'il a mise sous clé. À vrai dire, on a peu de descriptions physiques du narrateur de la recherche qui ne se révèle au lecteur que par son intériorité anxieuse et obsessionnelle et par son incapacité à jouir pleinement du bonheur que lui procure son amoureuse. Mais ce qu'on sait du physique d'Albertine, sensuel et physiquement épanoui, et surtout de sa constitution morale, docile et tranquille, aussi longtemps qu'elle peut conserver son autonomie dans la recherche de ses propres plaisirs, ne laisse aucun doute sur l'importance de l'altérité dans l'attachement du narrateur à Albertine, dont l'apparente simplicité apparaît comme l'antonyme, on peut même dire l'antidote de sa propre complexité morale. De ce point de vue, on pourrait dire que toute l'histoire du narrateur avec Albertine est celle de l'échec de son narcissisme. Alors, on pourrait peut-être trouver une origine de la conception solipsiste de l'attachement amoureux dans le mythe d'Aristophane du banquet de Platon, qui présente la recherche de l'autre comme celle d'une partie manquante de soi-même, dont chaque individu aurait été autrefois séparé par une décision des dieux qui voulait punir les hommes de leur arrogance. Cependant, une partie manquante n'est ni un reflet, ni un double, ni un être identique à soi-même. L'individu mâle ou femelle qui, dans le mythe d'Aristophane, cherche dans l'autre sexe une réunification de l'androgyne primitif, aspire à un tout qui ne se confond pas avec lui-même. Et la même remarque s'applique au sujet homosexuel qui cherche dans le même sexe la réunification du mâle ou de la femelle primitif. Alors, on a longtemps associé l'homosexualité à une perception déficiente de l'altérité, mais il n'est pas du tout sûr que les amours homosexuels soient moins sensibles que d'autres à l'altérité, non pas du sexe, mais de l'individu. C'est en tout cas ce que semble montrer une série de films récents sur des amours homosexuels, comme par exemple La vie d'Adèle ou L'inconnu du lac, ou encore ceux de Xavier Dolan, par exemple Tom à la ferme, dont les amoureux sont confrontés à des êtres extrêmement différents d'eux-mêmes. C'est en effet l'altérité et l'étrangeté radicale du désir d'autrui qui, quel que soit le sexe de l'être aimé, est l'un des ingrédients les plus sûrs du vertige et de l'attachement amoureux, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant en parlant donc de l'attachement amoureux et du désir d'autrui. Évidemment, tout ce qui précède n'avait pas pour but de nier ou de minimiser les satisfactions dites narcissiques que peut apporter une relation amoureuse, comme par exemple l'amour de soi associé à ce que Robert Musil appelle l'illumination amoureuse, ou encore la fierté de la relation avec un être aimé en particulier, surtout d'ailleurs lorsque cette relation se noue avec une personne ayant une valeur considérable sur le marché des biens amoureux. Ce qui, comme le savent les lecteurs de la recherche, n'était pas le cas de la pauvre Albertine qui paraissait tout à fait quelconque aux amis du narrateur. Car le fait d'être séduit, comme la plupart des gens, par les attraits les plus recherchés, c'est-à-dire, suivant la vulgate sexiste, malheureusement confirmée par beaucoup d'études empiriques, la jeunesse et la beauté pour les femmes et la position sociale pour les hommes, n'implique pas que ces attraits soient suffisants pour susciter un attachement ou une dépendance amoureuse. L'attachement repose en effet sur des mécanismes motivationnels qui ne tiennent pas seulement à l'attractivité standard de l'objet désiré, mais à la place que le sujet amoureux peut lui-même occuper dans le désir de l'être aimé. C'est bien là une affaire de narcissisme, mais de narcissisme au second degré, si l'on peut dire, puisqu'il faut d'abord valoriser le désir et le narcissisme de l'être aimé pour pouvoir en tirer soi-même des satisfactions narcissiques. Alors, pour mieux saisir cette idée d'alternarcissisme comme goût pour le désir et le narcissisme d'autrui, il me semble utile de prendre un peu de distance vis-à-vis de toute une tradition de recherche sur l'amour qui nous a habitués à une vision à la fois culturaliste, mimétique et stratégique du sentiment amoureux. L'aspect culturaliste peut être illustré par le grand livre de Denis Rougemont qui voit dans l'amour-passion une construction ou une invention culturelle propre à l'Occident. L'aspect mimétique se retrouve plutôt dans la théorie du triangle de René Girard, suivant laquelle le désir amoureux serait toujours le décalque du désir d'un tiers plus grand que soi-même, qu'on aimerait égaler par narcissisme, justement. Quant à l'aspect stratégique, on le rencontre dans des théories sociologiques qui voient la relation amoureuse comme un contrat renouvelable, Anthony Giddens, par exemple, et éventuellement utilitaire, le sentiment lui-même étant désormais contaminé par le processus de rationalisation caractéristique du développement occidental. Et ça, je pense à Eva Illouz. L'hypothèse alternative sur laquelle j'ai travaillé considère au contraire la passion amoureuse comme une capacité transculturelle qui repose sur une propension évolutionnaire à rechercher des plaisirs et des intensités de vie et, le cas échéant, à en devenir sévèrement dépendant lorsque l'objet du désir prend le pas sur tout calcul rationnel. Évolutionnaire signifie que la propension en question s'est développée et transmise dans l'espèce homo parce que la motivation au plaisir et aux intensités de vie pouvait avoir un avantage adaptatif, les objets de plaisir comme la nourriture ou le sexe étant aussi des conditions de survie individuelle ou spécifique. Alors, des études menées depuis les années 50 ont montré que cette motivation commune repose sur l'activation d'une sorte de tronc commun de la recherche du plaisir, ce qu'on appelle le circuit de la récompense, sous la forme notamment de la libération de dopamine depuis l'aire tegmentale ventrale du cerveau vers le cortex préfrontal. Les dépendances pathologiques, en particulier les addictions à des substances psychoactives, sont elles-mêmes considérées aujourd'hui comme un emballement et un dérèglement de ces mécanismes neurologiques de recherche du plaisir. Quant aux pathologies de l'attachement amoureux, elles ont toujours été décrites par les romans et la littérature sous des traits habituellement associées aux addictions, telles que le désir intense, qu'on appelle le craving, la souffrance en cas de sevrage, l'impact sur les activités sociales habituelles, les comportements compulsifs. Je cite dans mon livre des études qui montrent la présence de récits et de témoignages de ce genre dans la plupart des cultures connues. On pourrait aussi rappeler la passion d'Héloïse pour Abélard, sur laquelle je vais revenir, ou plus avant, celle d'Achille pour Briseis, qui n'était, dit-il, qu'une simple esclave, mais qui a suffi à susciter sa colère contre Agamemnon dans Homère. Cette description de la dépendance amoureuse, donc transculturelle, transhistorique, et à l'opposé de tout calcul mimétique ou stratégique, est aujourd'hui confirmée par les neurosciences qui montrent que l'addiction aux drogues et l'attachement amoureux agissent de façon tout aussi irrationnelle sur les mêmes dispositifs neurologiques que les substances psychoactives. Sauf que, d'après les travaux actuels, l'amour n'est pas une dépendance comme une autre, c'est une dépendance primaire, tandis que la dépendance aux drogues ne serait qu'une dépendance secondaire. On dit aujourd'hui que les drogues piratent les circuits de la récompense conçus pour d'autres fins. La psychologie évolutionniste suppose en effet que ce n'est pas la consommation de substances psychoactives qui a favorisé l'apparition des circuits de la récompense et de la motivation dans le cerveau, mais que ce serait plutôt l'attraction sexuelle et l'attachement parental, dont la valeur reproductive est nettement plus importante, car il motive les accouplements et le souci de mener les petits à l'âge adulte. Les liens existants entre Eros et Storgé, attachement amoureux et attachement parental, dont vous avez aussi parlé, ont été mis en évidence par des travaux de neuroimagerie qui montrent un recoupement des zones du cerveau impliquées lorsqu'on présente à des sujets des images de l'être aimé, qu'il s'agisse d'un amoureux ou d'un enfant. Mais ils se fondent aussi sur des arguments cliniques avancés par des sociobiologistes féministes, en particulier Sarah Dye, ça s'écrit H-R-D-Y, elle n'est pas très connue, mais elle est traduite en français et je vous conseille sa lecture, qui souligne la ressemblance du vocabulaire des gestes et des sentiments de l'amour, inquiétude, souci, empathie, ce qui implique aussi le fait de se sentir directement concerné par les désirs, les fiertés et donc le narcissisme d'autrui, dont va dépendre celui du sujet. Le désir d'autrui, et c'est mon point central, est en effet l'enjeu principal d'une relation amoureuse, car il conditionne la sélection sexuelle tout en jouant sur la mémoire individuelle de la sélection parentale. Pour pouvoir motiver un partenaire et participer au banquet sensuel de l'amour, il faut en effet être sexuellement attirant, mais aussi se montrer aussi attachant qu'un enfant capable de séduire et de motiver un parent, sachant que tous les enfants ne sont pas jugés aussi adorables les uns que les autres. Chez les humains, comme chez les animaux, beaucoup d'enfants sont rejetés, abandonnés, voire tués. Roland Barthes disait qu'un amoureux est un enfant qui bande, ce qui est une façon imagée de rappeler la présence dans le couple de la soumission voluptueuse à celui ou celle qui vous désire et vous protège tout à la fois, et auquel vous êtes d'autant plus attaché qu'il a la liberté d'en choisir un autre. C'est cette liberté qui rend exquis le soin qu'il vous prodigue et le plaisir éventuel qu'il a à recevoir vos propres soins éthico-érotiques. C'est la raison pour laquelle on est prêt à tout pour obtenir ce soin lorsqu'on est amoureux, comme l'étaient les oiseaux mâles observés par Darwin, qui arboraient des couleurs très vives pour séduire les femelles, au risque de se rendre plus vulnérables à des attaques de prédateurs, comme le sont aussi ces organismes mâles qui, dans la nature, se font avaler et digérer par l'objet féminin de leur désir, araignées, crustacés, escargots marins, baudroies, poissons pêcheurs, organismes microscopiques. Alors, il y a des théoriciennes féministes de l'évolution, en particulier John Hofgarden, qui se sont demandé pourquoi les mâles n'ont pas été réduits à des sacs à sperme par la sélection naturelle, s'ils ne sont bons qu'à fournir des gamètes. Et alors, la réponse étant qu'ils auraient été sauvés de ce sort funeste par leur fonction dans l'élevage des petits. Pour ce qui est des humains, en tout cas, l'attachement amoureux a en outre l'avantage de favoriser le narcissisme de l'être aimé lorsque l'amoureux espère contribuer à l'amour de soi que l'autre se porte, ses propres jouissances narcissiques devenant ainsi une fonction de celle de l'autre, sans même parler des jouissances sensuelles sur lesquelles je dirai un mot à la fin. La reconnaissance de l'autonomie du désir d'autrui conduit aussi, malheureusement, à admettre l'éventualité inéluctable du désir de l'être aimé pour un tiers, avec tous les inconvénients que cela comporte en termes de dépit ou de désespoir amoureux. Cependant, le désir pour un tiers a un statut ambigu, car il est non seulement un risque pour la sécurité affective du sujet, mais il est aussi un indicateur de valeur du désir de l'être aimé, témoignant de la capacité de l'aimer à en choisir un autre, alors même qu'il vous a déjà choisi vous-même ou qu'il pourrait encore vous choisir. Ce qui est divin dans le lien amoureux est d'être aimé et désiré par un autre suffisamment autonome dans son propre désir pour être capable d'en choisir un autre. Ce qui explique qu'on adore et qu'on redoute en même temps l'autonomie désirante de l'autre et qu'on cesse d'aimer ce qui est simplement à disposition, comme le craignait la princesse de Clèves de la part du comte de Nemours. Tandis qu'à l'inverse, le prince de Clèves pouvait avouer à sa grande honte à la princesse « Je vous aimais jusqu'à être bien aise d'être trompé ». On comprend ainsi que l'infidélité ne soit pas toujours une cause d'éloignement, mais souvent au contraire, une cause d'attachement supplémentaire lorsque l'aimé revient durablement ou momentanément vers l'aimant, comme c'était le cas d'Albertine revenant vers le narrateur de la recherche. Celui-ci se montrant d'ailleurs d'autant plus amoureux et jaloux qu'il se savait incapable, étant un homme, d'offrir à Albertine les plaisirs qu'elle trouvait dans ses amours saphistes, c'est-à-dire homosexuels. Finalement, pour faire de l'adultère une menace et une cause de détachement efficace sur le mode « si tu me trompes, je te quitte », il faut probablement se forcer à être insensible, ou alors l'être déjà, parce qu'en réalité, on n'aime plus assez. Voilà, mon dernier point, ça sera sur la nouvelle éthique érotique et le principe d'Héloïse. Donc, pour compléter ces remarques sur l'alternarcisme, j'ai dit alternarcisme, j'hésitais entre les deux mots. Donc, alternarcisme, j'avais d'autres mots aussi. Je voudrais maintenant donner quelques indications sur les conditions actuelles de la relation amoureuse, en particulier sur l'évolution contemporaine de l'éthique érotique, c'est-à-dire l'éthique de l'amour. L'accès des deux sexes à ce qu'on appelle la monogamie sérielle, c'est-à-dire une succession de mises en couple à durée limitée qui a remplacé le mariage à vie, a en effet modifié assez profondément la géographie des aventures amoureuses en accroissant la précarité des couples contemporains. Cette précarité entraîne mécaniquement une augmentation de l'offre sexuelle qui contribue elle-même à la fragilisation des couples tentés de se former durablement. Alors, de plus, si on compare la nouvelle carte de Tendre à celle de Madeleine de Scudéry au XVIIe siècle. Alors dans mon livre, j'ai présenté les deux cartes à la fin du livre et j'aurais aimé les présenter aujourd'hui, mais ça n'était pas possible pour des raisons techniques parce qu'il n'y avait pas de rétroprojecteur possible, mais vous pourrez les trouver à la fin de mon livre. Elles sont en noir et blanc, ce qui est un peu dommage. Mais bon. On voit que la carte de Tendre, c'est un dessin, avec en bas une nouvelle amitié et puis tout en haut une arrivée. Et la carte de Madame de Scudéry mettait la mère dangereuse de l'union érotique au terme d'un long processus d'interconnaissance des amants qui passait pour chaque nouvelle amitié, ça c'est tout en bas quand on commence, par les nombreux petits villages menant à tendre sur reconnaissance d'un côté ou à tendre sur estime de l'autre ou alors plus directement à tendre sur inclination par le grand fleuve du même nom, à condition d'avoir évité en chemin le lac d'indifférence ou la mer d'inimitié. Au contraire, la carte de Tendre contemporaine conduit très vite les nouveaux partenaires aux relations charnelles de Tendre sur Eros, avant d'aboutir dans la majorité des cas au retour des amants vers l'océan des nouvelles rencontres, typique de cette peur de l'engagement qui serait aujourd'hui, selon des sociologues, l'une des principales causes de souffrance amoureuse. La mère promise des amours qui réussissent à durer par attachement charnel, mais aussi par routine ou partenariat, ne peut être atteinte que lorsqu'on a franchi ce que j'ai appelé le marais critique, éthique et thérapeutique qui menace la plupart des couples, en plus de la mer d'inimitié dont parlait Madame de Scudéry et qui existe toujours, et du gouffre des folies dans lequel sombrent certaines addictions amoureuses. Il faudrait voir la carte, c'est un peu dommage de ne pas la voir. Cependant, cette fameuse peur de l'engagement n'est sans doute pas la cause, mais plutôt l'effet d'un phénomène qui tient, je crois, au niveau d'exigence des couples en devenir, que la liberté des mœurs a sensiblement accru au cours des dernières décennies. Au modèle de l'amour des mariages religieux traditionnels, comme par exemple chez les chrétiens, le don de soi, le soin mutuel et la fidélité à vie, ou chez les juifs, la protection du foyer, le travail pour l'épouse et le devoir de l'honorer, s'est en effet substitué un modèle qui inclut, dans les attentes morales du couple, l'épanouissement personnel et l'assouvissement charnel à égalité pour les deux sexes, en plus de l'attachement et du soin mutuel. Alors, l'épanouissement personnel constitue de la vie générale une des attentes de base de l'individu contemporain, dont témoigne par exemple la taille des rayons de librairie sur le sujet. Quant à l'assouvissement sexuel, les grandes études sur la sexualité, comme par exemple l'enquête INSERM de 2006, de même que la représentation cinématographique des relations amoureuses, beaucoup plus torride que dans l'ancienne comédie romantique, attestent que le sexe ordinaire incorpore désormais la plupart des pratiques que Freud appelait des perversions, mais qui sont aujourd'hui complètement adoubées, telles que l'homosexualité, la masturbation, le sadomasochisme, la sodomie ou l'usage sexuel de la bouche. Les couples normaux ont désormais inclus les exigences du sexe libre et imaginatif en rapatriant toutes sortes de pratiques réservées autrefois au sexe hors mariage, rompant ainsi avec des siècles de pudibonderie et de répression patriarcale. Ce que la tradition biblique nommait « porneia », qui signifie en grec « impudicité », « fornication », « prostitution », « adultère », n'est plus l'apanage de la prostitution, mais fait désormais partie des attentes morales ordinaires des couples contemporains, ce qui rend du reste plutôt insolite la poursuite de la répression contre les travailleurs du sexe. Pour rendre compte de cette nouvelle situation morale, on pourrait, et c'est ce que j'ai essayé de faire, emprunter à l'étudiante Héloïse les termes sous lesquels elle exprimait au XIIe siècle sa dévotion amoureuse, morale et charnelle pour le philosophe Abélard, dans une correspondance qui est devenue fameuse à cause du triste sort que l'oncle d'Héloïse infligea au philosophe en le faisant émasculer par des sbires après qu'il eût épousé sa nièce. Alors je cite Héloïse, « Bien que le nom d'épouse paraisse plus sacré et plus fort, disait-elle, j'aurais mieux aimé pour moi celui d'ami, ou même sans vouloir te choquer, celui de concubine et de putain. Si on élargit ce souci éthico-érotique aux soins réciproques de l'amoureux pour l'amoureux, ou de l'amoureuse pour l'amoureuse, quel que soit son sexe ou son orientation sexuelle, et si on veut bien se permettre d'utiliser le mot de putain également au masculin, on pourrait formuler sous le nom de principe d'Héloïse le point clé d'une nouvelle éthique de l'intime qui pose le bien-être et le plaisir de l'aimer comme condition du sien. Ce qui n'est, en définitive, qu'une autre façon de considérer le narcissisme d'autrui comme une condition du sien lorsqu'on se plaît à complaire à autrui pour jouir de son plaisir. La nouvelle éthique de l'intime qui ressort de ce tableau est exigeante car elle offre à chaque partenaire la liberté de rompre une relation qui ne le satisfait plus ni sur le plan moral lorsque son bien-être et sa liberté sont menacés, ni sur le plan charnel lorsque le désir s'évanouit, ce qui explique la porosité des couples actuels et le souci d'y regarder à deux fois avant de s'engager durablement. Voilà, je vais conclure très brièvement sur la philosophie de l'amour. Alors, voyez, dans ma démarche, le recours aux neurosciences et à la psychologie évolutionniste permet surtout d'envisager un design historique, c'est-à-dire une fabrication ancestrale du cerveau humain comme résultat de fonctions internes ou intimes, et non pas seulement sociales, autour de la motivation sexuelle et de l'attachement parental. Suivant cette conception, il existerait une sorte d'organe neuronal du plaisir et des intensités d'existence relativement indépendantes des organes des sens, qui alimentent en particulier l'attachement amoureux. Ce sens neurologique de la belle vie, c'est comme ça que je l'appelle, correspond en fait assez bien, dans le vocabulaire des neurosciences contemporaines, au sens axiologique du bien ou du beau qui était envisagé par les philosophes britanniques du XVIIIe siècle, notamment Francis Hutcheson, qui voyait une sorte de sens complémentaire des cinq sens, d'organes. Alors lui, c'était la beauté, l'organe du bien. Je parlerai plutôt d'un organe de la belle vie. Cette approche a plusieurs conséquences importantes sur la philosophie de l'amour, en particulier le fait que la motivation amoureuse, compte tenu de son substrat neurochimique, est toujours suprêmement intéressée, contrairement aux thèses courantes sur l'amour, comme île enchantée de désintéressement dans l'océan de l'égoïsme libéral. Sauf que cet intéressement n'est ni solipsiste, ni purement individualiste, si on admet que la jouissance amoureuse passe par celle de l'autre. Le goût pour autrui étant toujours un goût au second degré de la jouissance et du narcissisme d'autrui. Cette approche est également cohérente avec des critères plus ou moins reconnus de la passion amoureuse, comme la tendance à l'hyperbole du sentiment, l'extrémisme du désir qui se traduit entre autres par l'absence totale de dégoût physique, sinon moral. Je développe tous ces points dans le livre. Ou encore l'inévitable question de la durée, qui distingue l'amour vrai du béguin ou du simple désir sexuel, tout simplement à cause de la logique du plaisir, dont le principe encore rend peu compatible amour intense et rassasiement amoureux. Tout ça, c'est des thèses que je pourrais défendre et que je défends, etc. J'ajoute une dernière remarque sur le passage de l'être au devoir-être en matière de théorie de l'amour. Dans ma conception de l'éthique, donc je ne veux pas non plus développer, le devoir-être est strictement intime. C'est moi qui sais ce que je dois faire. Les autres, c'est leur affaire. Sur le plan social, on n'a que des interdits qui ont un substrat empirique, la connaissance commune du plaisir et de la souffrance, mais pas d'autre garantie que l'idée approximative que chacun d'entre nous se fait de l'éthique ou de la morale. Je ne fais pas de différence entre les deux. Cette remarque s'applique à l'éthique de l'intime telle que je l'ai présentée. On peut l'observer et la théoriser, c'est ce que j'ai essayé de faire, de façon, j'espère, pas trop ennuyeuse pour vous, mais on ne peut pas la prescrire. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Patrick Ferraud pour cet exposé qui, je suis sûr, éveille en chacun beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si on donne tout de suite la parole à la salle. Moi, je pourrais peut-être essayer d'engager un petit peu la discussion avec vous deux. Mais alors, par une espèce de demande d'éclaircissement plus qu'une question, je dois avouer que je ne connais pas vos travaux. Parce que, en tout cas, par ce qu'on vient d'entendre ce soir, on sent quand même une énorme culture sociologique qui m'interpelle à beaucoup d'endroits comme philosophe. Mais je regardais les titres de vos livres, qui sont quand même très marqués par la philosophie et par l'histoire de la philosophie. Déjà, le premier, moi, m'interpelle beaucoup, le sens de la justice, et ensuite la question du respect, morale, éthique, éthica, valeur, raison, civilisation. On est quand même dans un certain langage qui est celui de la morale et de l'éthique. Et à la toute fin, vous avez marqué votre conception de l'éthique comme en une formule, mais je me trompe peut-être. Hein, c'est moi qui sais ce que je dois faire. Donc l'éthique serait ce moment où c'est moi qui sais ce que je dois faire. Et alors, je sais que c'est une question extrêmement vaste, mais ce moment-là, vous le voyez intervenir où dans ce que vous avez décrit comme un emportement de cette capacité, de ce moment de capacité, ce que je peux tout à fait concevoir et qu'on peut tous concevoir, on comprend tous très très bien de quoi vous avez parlé, on comprend tous très bien cette évolution de l'amour, de la relation amoureuse que vous avez décrit, le déplacement du statut de la perversité, enfin, tout le monde sait très bien de quoi il s'agit, mais où est-ce que ce moment-là intervient dans cette sociologie que vous avez très très bien décrite?
Bon, alors donc forcément très brièvement, donc la sociologie morale telle que je la fais depuis très très longtemps, c'est une sociologie très philosophique, c'est pas les grandes forces sociétales qui ne m'ont jamais intéressé, hein, à vrai dire. Je dirais c'est pas une philosophie de première ligne. Mon modèle, d'une certaine façon, c'est l'histoire de la philosophie que je trouve modeste et que je respecte beaucoup. Simplement, je ne fais pas d'histoire de la philosophie. Je cherche la philosophie dans la vie sociale, dans l'expression courante. Alors, quelquefois, c'est des enquêtes. Quelquefois, c'est du cinéma. Dans ce que je fais ces dernières années, il y a beaucoup, beaucoup de cinéma. C'est la littérature, c'est les savants aussi. Hein, c'est intéressant de voir tous les... Moi, j'ai lu beaucoup pour faire ce livre-là. D'articles publiés dans les grandes revues, j'ai fait des recherches systématiques pour sortir tous les articles sur le sujet, etc. Et ils commencent toujours par exposer leur conception de l'amour. Hein, c'est pas des philosophes, mais ils ont des choses à dire en tant que savants aussi. Donc voilà comment je fais de la philosophie. La sociologie morale, c'est ça. Bon, éthique de l'intime, je pense, si vous voulez, en gros, je crois que... si vous voulez, la tradition philosophique jusqu'à la philosophie morale et politique du XXe siècle est une philosophie de la sagesse, du rapport à soi-même. Je veux dire, si on lit Pirado, etc., on verra ce qu'est bien sûr, le rapport à soi-même, c'est aussi un rapport avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on met les autres entre parenthèses, mais ce dont il s'agit, c'est de savoir comment se conduire, savoir quoi faire, aussi bien dans l'aristotélicisme, le stoïcisme, l'épicurisme, etc. Bon, moi, je m'inscris tout à fait dans cette tradition. Je pense qu'il y a eu une sorte de déformation dans la philosophie contemporaine, c'est-à-dire que la vision sociologique et politique de la morale a vraiment encombré tout le champ de la... Enfin, pas tout, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions aussi, beaucoup de différences. Il y a des philosophes comme Bernard Williams, etc., qui sont dans une perspective un peu différente. Mais voilà, c'est... Donc, je pense que la question éthique, c'est la question du rapport à soi-même, sachant que socialement, ce qu'est l'éthique, chacun sait, chacun est censé le savoir, mais on ne sait pas ce que c'est. Les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. Un très grand philosophe peut dire, comme Houghton Rawls, peut dire que l'utilitarisme est immoral, etc. Donc ça, c'est la situation. Ce qui ne veut pas dire que l'éthique n'a pas de sens. Les intuitionnistes défendent l'idée qu'on peut avoir des intuitions morales. Bon, moi, je ne me prononce pas sur ces questions parce que je ne fais pas de la philosophie de première ligne, mais j'essaye de montrer dans tout ce que
je fais. Vous avez défini comme éthique, pas du tout sur l'histoire de l'éthique, sur la liberté de choisir. C'était quoi? C'était c'est moi qui sais ce que je dois faire.
Voilà, qui sait ou qui ne sait pas. Mais ça me,
c'est, non, mais le je savoir, vais pas dire à autrui. Le moment du si savoir, de je sais ce que je dois faire. C'était dans ce sens-là que je posais la question. Où intervient ce moment de savoir dans ce que vous avez décrit?
Je pense qu'il faut, pour répondre à cette question, on ne peut pas répondre dogmatiquement, il faut voir beaucoup de films, il faut voir beaucoup de, lire beaucoup de romans, faire beaucoup d'enquêtes. Bon, par exemple, j'ai fait des enquêtes sur des gens qui avaient eu des expériences sévères avec les drogues, qui essayaient d'en sortir, et donc eux savent, eux racontent ça comme... un film qui nous plaît est un je ne sais pas, allez voir Le Havre de Coris Maki, vous saurez à quel moment le sujet c'est ce qu'il doit faire. Voilà, Coris Maki, le personnage de Coris Maki ne va pas donner des leçons de morale, ne va pas dire, si vous voyez, il ne va pas faire ça, il va le faire, voilà. Et ça le concerne. Et ça le concerne, soit dans la société, bien entendu. C'est une sociologie morale que je fais. Voilà.